dans un très vieux récit historique qui a été écrit au XIVe siècle, on peut lire la phrase suivante. Louis, duc de Bourbon et comte de Clermont, s'en vint à son duché de Bourbonnois à Souvigny, où il arriva 2 jours avant Noël, l'an de grâce 1363. Et là vinrent de par lui ses chevaliers et écuyers. Une vieille histoire, 1363. Mais vous avez remarqué comment en 1363, ils annonçaient le nom de cette année, l'an de grâce, 1363. Et en effet, depuis les années 1300, on retrouve l'habitude de parler de l'an de grâce. Et cette habitude s'est poursuivie dans le temps. J'ai ici une image d'un calendrier de 1833. Et il est écrit ici, pour l'an de grâce 1833. Quand je pense à l'année qui va débuter dans quelques jours seulement, j'ai vraiment l'impression que 2008, c'est une année de grâce. Une nouvelle année de grâce. Et quand on parle d'année de grâce, on parle de prolongation de temps. On parle de la patience de Dieu. On parle d'une occasion que Dieu nous donne d'achever ce que nous avons commencé et que nous n'avons peut-être pas terminé. On parle de l'occasion que Dieu nous donne de commencer ce que nous n'avons pas commencé. Une année de grâce. Nous avons parlé de Noël il y a quelques jours en arrière. Et nous avons évoqué au moment de Noël la venue de Jésus, qui est le moyen par lequel Dieu a rendu sa grâce disponible à chaque être humain. Et nous avons parlé de la grâce de Dieu qui nous est offerte en Jésus-Christ. Maintenant, nous parlons de la nouvelle année comme d'un temps de grâce. Parce que la grâce de Dieu qui nous a été donnée par Jésus-Christ, c'est aussi du temps. La grâce de Dieu se manifeste aussi par le temps qu'il nous donne. Et ainsi, cette nouvelle année qui s'ouvre dans quelques jours est véritablement un temps de grâce pour nous. L'an de grâce 2008. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître au chapitre 3 et au verset 8, reprend cette même idée du temps comme une expression de la grâce de Dieu. Et vous vous souvenez de ce passage où il dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu ne tarde pas, il est simplement patient. Il vous donne, autrement dit, un temps de grâce supplémentaire pour que vous puissiez arriver, nous dit le texte, à la repentance. Autrement dit, le temps, c'est aussi une manifestation de la grâce de Dieu qui se rallonge et qui nous est accordée. Jésus raconte une parabole dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, dans lequel il présente aussi cette idée de l'année de grâce. Et j'aimerais relire avec vous cette parabole qui se trouve dans l'évangile selon Luc, au chapitre 13, et nous lirons dès le verset 6. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui dit, « Seigneur, laisse-le encore 7 années. Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Cette parabole, évidemment, dans un premier temps, s'adresse au peuple hébreu. Et cette parabole qui s'adresse au peuple hébreu reprend, bien entendu, des prophéties que l'on trouve dans l'Ancien Testament, où un temps de grâce était donné au peuple hébreu. En fait, Daniel dans le chapitre 9 de son livre, reprend cette même notion. Maintenant, si nous prenons cette parabole sous un angle prophétique, nous arrivons à quelque chose de particulièrement intéressant. Jésus, dans cette histoire, va donner encore une année de grâce supplémentaire, ce qui va faire un total de 4 ans qui est donné à cet arbre pour porter du fruit. Maintenant, si nous prenons ces 4 ans dans le sens prophétique, et si nous appliquons la clé prophétique pour comprendre les temps prophétiques dans la Bible, 4 ans vont correspondre à 4 fois l'année juive de 360 jours, c'est-à-dire à 1440 jours. Et dans la Bible, dans les prophéties, 1440 jours font 1440 ans. 1440 ans. Maintenant, le peuple hébreu est rentré en Canaan dans l'année 1405-1406 avant Jésus. Si vous ajoutez à cela 1440 ans, vous arrivez dans l'an 34, qui est justement la fin de la prophétie de Daniel, chapitre 9. Fin de cette prophétie qui était présentée par Dieu comme un temps de grâce donné au peuple hébreu pour porter ses fruits, recevoir le Messie. Dans cette parabole, Jésus n'est pas en train de se substituer à Daniel et à donner la prophétie dans les détails. Mais finalement, à peu de choses près, la même période de temps se trouve ici donnée comme cette période durant laquelle Dieu attend que son peuple porte du fruit. 4 années données à cet arbre. Et vous avez remarqué, il est venu chercher du fruit régulièrement. Il n'en a pas trouvé. Et puis, finalement, Dieu va donner encore une année de grâce supplémentaire, une année de grâce pour porter du fruit. Bien entendu, dans un premier temps, cette parabole qui s'applique au peuple hébreu peut aussi s'appliquer à chacun d'entre nous. Et elle s'applique à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous dans cette année de grâce qu'il nous donne encore? Eh bien, la parabole nous le dit. Ce que le Seigneur attend de nous dans cette année de grâce, c'est de la croissance, du développement, du progrès. De la même manière qu'il attendait de cet arbre de la croissance, des fruits. Dans l'année de grâce 2008 que le Seigneur va nous donner, il attend de la même manière que nous croissions, que nous portions des fruits qu'il viendra chercher. Si nous considérons la vie chrétienne comme un train dans lequel on monte, on s'assied et on attend d'arriver tout simplement à destination, il n'y aura pas de croissance. Si nous considérons que nous sommes membres d'Église, il n'y aura pas de croissance. Vous vous souvenez, il y a un certain nombre d'années en arrière, on ne parlait pas de l'Église adventiste, on parlait du mouvement adventiste. Et puis avec le temps, on a parlé de l'Église adventiste. Mais le message qui est transmis par ces deux expressions est bien différent. Est-ce que vous êtes membre d'une Église ou est-ce que vous êtes membre d'un mouvement? Vous voyez la différence? Dans l'un, il n'y a probablement pas de croissance. Dans l'autre, il y a une dynamique. Est-ce que vous êtes membre du mouvement adventiste? C'est ce que le Seigneur nous demande, en fait, dans cette année de grâce, c'est d'être membre d'un mouvement, d'être en croissance. Mais alors, comment faire pour croître? Et ce matin, vous allez me dire, mais pasteur, ce sont des choses qu'on sait. Mais je sais que vous le savez. Et je le sais aussi. Le problème, ce n'est pas de savoir. Mais si vous êtes comme moi, ce que je pense, le problème n'est pas de savoir, le problème, c'est de faire. Et c'est la raison pour laquelle je me permets ce matin de vous rappeler des choses que vous savez, des choses qui sont la base de la vie chrétienne, mais dont nous avons impérativement besoin si nous voulons, dans l'année de grâce 2008, porter des fruits à la gloire du Seigneur. Comment faire pour grandir? Comment faire pour croître? La première chose, c'est se nourrir. Alors ici, évidemment, Vous souhaitez probablement que la parabole s'arrête. Parce que dans la parabole, il est dit qu'il va donner du fumier à cet arbre. Donc je pense qu'il faut que la parabole s'arrête, que les symboles soient pris différemment, si vous le voulez bien. C'est d'autre chose qu'il faut se nourrir. Mais il faut se nourrir. Se nourrir pour être en croissance. On nourrit les enfants, on nourrit les adultes, nous nourrissons aussi chaque jour pour grandir et pour être capable de nous développer. Mais si nous considérons que ce que nous avons appris à notre baptême est suffisant, il n'y aura pas de croissance. Le vrai chrétien ne dit pas « je sais » ou bien « j'en sais assez ». Parce que le vrai chrétien se rend compte que le peu qu'il sait, c'est tellement peu à côté de tout ce qu'il reste encore à apprendre pour comprendre et pour aimer le Seigneur Jésus. Ainsi, nous sommes invités à nous nourrir. Le temps de grâce qui nous est donné, c'est un temps pour se nourrir. Cette nourriture que nous trouvons, bien entendu, dans l'étude de la parole de Dieu, dans le contact avec Dieu, dans la prière. Il est nécessaire de se nourrir si nous voulons être capables de porter les fruits que le Seigneur attend de nous. Dans le 5e volume des témoignages, écrit par Ellen White, je trouve ce paragraphe. Tous ont besoin d'une meilleure intelligence de l'œuvre de purification qui s'accomplit dans le sanctuaire céleste. Lorsque cette grande vérité sera saisie et vraiment comprise, ceux qui l'ont acceptée travailleront alors en harmonie avec Christ pour préparer un peuple pour le grand jour de Dieu et ils auront du succès par l'étude, la contemplation et la prière. Le peuple de Dieu sera élevé au-dessus des pensées et des sentiments humains et sera rendu semblable à Christ. Voilà se nourrir par l'étude, par la contemplation, par la prière. Voilà ce qui va nous élever et nous permettre de nous développer à l'image du Christ qui est notre exemple. Comment faire pour croître ? Première chose, il faut se nourrir. Et puis, que faut-il faire encore? Eh bien, il faut arroser cette plante. Et vous savez comment dans les Écritures, l'arrosage, l'eau, la pluie est une image de l'action du Saint-Esprit en nous. Nous avons besoin pour croître de l'action du Saint-Esprit en nous. Mais bien sûr, si nous n'avons pas conscience des besoins qui sont les nôtres, nous n'allons pas demander à Dieu de nous aider à les satisfaire. Si nous nous sentons satisfaits de nous-mêmes et de ce que nous avons accompli, nous n'allons pas non plus demander à Dieu une force supplémentaire, une force divine, pour accomplir ce qu'il voudrait accomplir en nous. Si nous pensons avoir en nous suffisamment de ressources pour être un bon chrétien qui porte des fruits, nous n'allons pas non plus demander à Dieu l'action de son Saint-Esprit, et nous n'aurons pas les fruits que le Seigneur demande. Ainsi, il est nécessaire que, dans cette année de grâce 2008, nous demandions à Dieu de nous donner son Esprit. Et vous vous souvenez que Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, expliquait que Dieu souhaite nous accorder son Esprit bien plus encore qu'un Père terrestre ne veut donner à manger à ses enfants qui le lui demandent. Cette image, nous la comprenons. Et elle nous donne une idée du souci que Dieu a de nous donner cette puissance d'en haut pour que nous puissions croître et grandir et porter des fruits. Encore une fois, dans le 5e volume des témoignages, Ellen White écrit ceci. Priez pour que l'énergie puissante du Saint-Esprit vous soit donnée et que sa capacité de réveiller, de restaurer et de transformer vous donne comme un choc électrique à votre cœur paralysé, qu'il donne à tous vos nerfs une vie nouvelle et transforme le vieil homme terrestre et sensuel en un homme spirituellement sain qui reflète l'image de celui par les blessures de qui vous avez été guéri. J'aime cette image. Priez pour avoir un choc électrique qui donne à votre cœur de devenir spirituellement sain. C'est effectivement ce dont nous avons besoin durant cette année de grâce 2008. C'est que le Saint-Esprit agissant en nous accomplisse en nous ce que nous ne pouvons pas accomplir par nous-mêmes. Si vous êtes comme moi, vous avez aussi essayé d'accomplir et de remporter ces victoires qui se présentent sur notre chemin. Mais nous nous rendons compte que nous avons besoin de recevoir cette puissance d'en haut pour pouvoir aller de l'avant. Comment grandir ? D'abord, se nourrir. Se nourrir par l'étude, par la contemplation, par la prière. Comment grandir ? Eh bien, il faut arroser cette plante pour que le Saint-Esprit agisse en elle et qu'il agisse en nous et qu'il n'y ait pas en nous de barrière qui l'empêche d'accomplir son action. Que faut-il faire encore pour grandir ? Et ce matin, je ne présenterai que trois choses. Il y en aurait beaucoup d'autres que l'on pourrait présenter, mais nous aurons l'occasion dans l'an de grâce 2008 d'en parler. Ce matin, j'aimerais simplement vous présenter trois choses. Comment grandir ? Il faut se nourrir. Il faut être arrosé par cette action du Saint-Esprit. Et puis, il y a une autre chose auquel nous sommes invités pour grandir, c'est servir. Être actif dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a invités. Nous lisons volontiers dans l'Apocalypse ce qu'il est dit au chapitre 14 concernant ces anges qui volent par le milieu du ciel et qui annoncent l'Évangile éternel. Et nous voudrions que des anges fassent effectivement ce travail qu'il est si difficile d'accomplir. Mais pourtant, ces anges qui parcourent le ciel à la fin des temps, qui annoncent l'Évangile éternel, qui encouragent le monde à garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus, c'est nous. C'est nous, croyants des derniers temps, qui sommes invités à accomplir cette tâche. Ainsi, pour grandir, nous sommes invités aussi à collaborer, à être des collaborateurs avec Dieu. Ellen White écrit dans le volume 5 des témoignages, « La tâche sera donnée à ceux pour qui elle a de la valeur et qui l'ont intégrée dans leur vie de chaque jour. Dieu choisira des personnes humbles qui chercheront à donner gloire à son nom et à avancer son œuvre plutôt qu'à se glorifier eux-mêmes. » Voilà pourquoi nous sommes invités à servir, pour que notre service nous engage dans l'œuvre de Dieu et pas la nôtre, et qu'en servant, nous apprenions à lui donner gloire. C'est en donnant gloire à Dieu que d'autres seront invités aussi à le recevoir comme leur sauveur. Et en servant, nous sentirons le besoin nous-mêmes de nous nourrir et d'être à nouveau arrosés du Saint-Esprit pour accomplir notre tâche. Ainsi, dans quelques jours, commence l'an de grâce 2008. C'est véritablement une année de grâce, une année où le Seigneur nous donne encore du temps de grâce, pour accomplir ce que nous n'avons peut-être pas accompli, pour commencer ce que nous n'avons peut-être pas commencé, pour prendre les décisions que nous n'avons peut-être pas encore prises. C'est une année de grâce. Et comme mot d'ordre pour cette année, j'aimerais vous laisser tout simplement un texte qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, où l'apôtre nous invite en fait à la même chose. Je ne sais pas s'il a écrit ce texte au début d'une année, mais je trouve qu'il correspond admirablement à ce dont nous avons besoin au début de cette année de grâce 2008. Dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, l'apôtre nous invite de la façon suivante. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. »